le psaume 40. Alors, quand on parle de psaume messianique, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va prendre dans Luc, chapitre 24, et au verset 44, ce que dit Jésus de cela. Lorsque Jésus apparaît après sa résurrection à ses disciples, il leur dit ceci. C'est là, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Je le relis. C'est important que ça rentre dans nos cœurs ce matin. C'est là ce que je vous disais, dit Jésus, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Par cette parole, cette référence que nous avons lue dans Luc, certains psaumes, en particulier ici le psaume 40, que nous allons voir comme exemple, mais il y a d'autres psaumes, portent un caractère particulier de psaume messianique, parce qu'il parle directement du Messie promis au peuple d'Israël. Le Messie, c'est le même mot pour oint, celui qui est oint. L'onction, on a parlé de l'onction dimanche dernier. Messie ou oint, ça veut dire la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom qui était donné au bébé qui est né. Donc Dieu qui s'est fait homme, et Jésus, c'est celui qui sauve. Jésus, c'est le nom de prénom de celui qui sauve. Et oint, Christ, c'est celui qui est oint par Dieu. Celui qui est venu pour... donc on a le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Parallèlement, on pourrait étendre ce concept, pas uniquement aux psaumes, les textes messianiques, dans le Pentateuque. Pentateuque. Pentateuque, ça veut dire 5. Les 5 premiers livres, c'est la Torah. Genèse, Exode, etc. Donc, c'est la base de la foi judaïque, la Torah. Et dans ce Pentateuque, il y a des textes précis sur le Messie. Il y a aussi dans les prophètes, les prophéties messianiques, Isaïe, entre autres, mais bien d'autres, qui parlent directement du Messie. Donc ces textes-là, et Jésus le rappelle ici à ses disciples, donc dans le Pentateuque, dans des livres prophétiques et dans les psaumes, il est question directement du Messie. Par extension, en général, le caractère messianique d'un texte dans l'Ancien Testament est avéré, donc il est affirmé comme étant messianique, quand plusieurs auteurs du Nouveau Testament les citent. C'est ça le critère. Quand Jésus lui-même les cite, dans les évangiles, Jésus cite les références, de l'Ancien Testament qui parlent de lui, mais aussi les disciples. Alors à ce moment-là, quand les disciples en parlent, en réfèrent, c'est là qu'on peut parler de textes messianiques. C'est vrai que dans la Bible, il y a d'autres textes qui sont à caractère messianique, sans être spécifiquement accrédités comme tels, parce qu'ils ne sont pas cités dans le Nouveau Testament. Par contre, il faut être prudent. Il y a certains chrétiens ou certains théologiens qui poussent un peu trop loin la typologie. Je donne un exemple. Il y a des types de Christ. Par exemple, Joseph est un type de Christ. Moïse est un type de Christ, parce qu'il a sorti le peuple d'Israël du pays d'Égypte où il était dans l'esclavage. Donc on a une typologie qui renvoie au personnage du Christ. Mais ce n'est pas des textes messianiques. C'est des textes qui sont à caractère messianique, mais on ne peut pas les affirmer comme messianiques selon le critère que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, au-delà d'une lecture directe, historique des psaumes, nous pouvons donc en relire certains psaumes comme étant une annonce d'avance de Jésus, et c'est le psaume 40 qu'on va prendre tout à l'heure comme exemple. Jésus a souvent cité les psaumes. Et je vous donne juste, avant d'attaquer le psaume 40, quelques illustrations. Dans Matthieu 21, 16, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il cite le psaume 8, verset 2. Dans Matthieu 5, 5, Jésus dit « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Et là, il cite le psaume 37, verset 11. Dans Jean, chapitre 6, verset 31, Jésus dit « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Et là, il cite le psaume 78, verset 24. Jésus montre ainsi, par la lecture des psaumes, que ça constitue une nourriture spirituelle. Et il va plus loin quand il reconnaît le caractère messianique de certains psaumes. Dans Marc, chapitre 12, verset 36, il cite un psaume qui annonce la gloire du Messie. Il dit « David, lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ça, c'était dans le psaume 110, verset 1er, qui annonce la gloire de Jésus qui s'assied à la droite du Père pour régner sur toutes les nations. Dans Jean, au chapitre 15, verset 25, ce passage évoque la souffrance du Messie. C'est un des points qui a perturbé Israël au temps de Jésus. Ils attendaient un Messie glorieux, ce qui est annoncé dans le psaume 110. Mais avant cela, ils ont oublié que chronologiquement, il fallait d'abord qu'il y ait un Messie souffrant pour nos péchés. Et là, ce passage nous dit « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Et cela est écrit dans Psaume 35, verset 19. Dans Jean, chapitre 13, verset 18, il annonce la trahison de Judas. Et c'est une référence du psaume 41, verset 9. « Il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » C'était une annonce de ce que Judas allait faire. Dans Luc, chapitre 20, verset 17, il démasque le rejet des gens religieux à son égard. Et en citant le psaume 118, verset 22, il est écrit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Voilà ce qui a été annoncé déjà. Et vous savez que Jésus parle de cette pierre angulaire qui est la pierre de fondation de l'Église, qui est Jésus. Est-ce que ce n'est pas touchant de voir que Jésus il parle de lui-même à travers ses citations? En citant ce qui est dans l'Ancien Testament, ses prophéties, eh bien, dans les psaumes, il parle de lui-même. On s'aperçoit aussi que souvent, quand on lit, par exemple, dans Hébreux, chapitre 10, versets 5 et 6, cela nous conduit au psaume 40. Si on prend le Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7... On va le lire. Il cite le psaume 40 qu'on va regarder ensemble comme un exemple de psaume messianique. Hébreux 10, 40. Non, 5 à 7, pardon. Verset 7. « Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voilà, donc il cite le psaume 40. Alors on va prendre le psaume 40 ensemble comme exemple de psaume messianique qui réfère directement à Jésus comme Messie. Simplement un petit détail, il y a certaines Bibles, je ne sais plus en français, je sais en anglais c'est le cas, il y a un décalage d'un verset. Par exemple ici, moi, dans ma Bible, je ne sais pas, moi j'ai le verset 2 alors qu'il n'y a pas de verset 1. Il y en a qui ont ça aussi? Voilà. Voilà. Alors ça vient d'un décalage où le premier verset, c'était, vous savez, souvent dans l'Ancien Testament, nous on a Genèse, Exode, etc. Mais les Juifs, c'est juste le premier mot qui indique le livre. Vous voyez? Donc nous on fait un résumé, hein, on est très grec, on fait un résumé du livre, ce que ça veut dire, mais eux ils prennent le premier mot. Hein. Donc certainement là le premier mot c'est le premier verset aussi, le psaume 40, c'est marqué de David, psaume de David, au cœur de David c'est le premier verset. Enfin, juste pour vous dire, parfois il y a des références qui sont décalées juste d'un verset. Donc moi le verset 2 dit, qui est le verset premier, « J'ai mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi. » Et il a écouté mon cri. Comme souvent dans les psaumes, d'ailleurs, le premier verset est un verset introductif, mais souvent qui résume l'ensemble du psaume aussi. Donc, c'est le cas ici. On voit que Jésus, quand on lit ce psaume, « J'avais mis », le « j'avais », l'identité, c'est Jésus. C'est Jésus ami. C'est pour ça que c'est un psaume messianique. Vous verrez dans l'ensemble du psaume que c'est vraiment Jésus qui est concerné par ce psaume. Jésus a mis en l'Éternel son espérance. J'avais mis, vous voyez, c'est pour ça que c'est un psaume messianique. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. On voit là l'humanité parfaite du Seigneur. Voyez-vous, quand on dit dans Philippiens, Jésus était parfaitement homme, hein, qu'il connaît nos souffrances, qu'il connaît les difficultés, qu'il connaît nos problèmes parce qu'il était homme, là, l'introduction de ce verset nous montre qu'il était parfaitement homme. En tant qu'homme, en tant que fils de l'homme, ben Jésus a dû mettre son espérance totale dans l'Éternel, son Dieu. Et ça, c'est un exemple qui nous montre que nous, on est amenés, en tant qu'êtres humains, à faire comme Jésus, qui nous a montré le chemin, qui nous a montré l'exemple, qu'il faut mettre totalement sa confiance dans le Seigneur pour que nous puissions vivre une vie chrétienne accomplie. Jésus l'a fait et nous demande de le faire. C'est là l'introduction de ce premier verset. Jésus a marché sur la terre dans une totale dépendance de Dieu. Il dépendait de son Père. Vous le savez, qu'il prenait son temps de prière régulier, tous les jours avec son Père, pour savoir ce que dans la journée il devait faire. Et quand il guérissait quelqu'un, il ne guérissait pas tout le monde. Il y en a qui pensent que tout le monde est guéri dans une réunion de guérison. Non. Jésus ne guérissait que ce qu'il voyait faire au Père. Il dépendait du Père. Alors, pourquoi? On n'en sait rien. On ne cherche pas les pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une dépendance. Donc, Jésus dépendait de son Père et sa dépendance, sa patience et sa souffrance sont évoquées là et se retrouvent dans les versets qui vont suivre. Le deuxième verset, donc le verset 3 chez moi, mais qui est le deuxième, il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et une louange à notre Dieu. Voyez-vous, ce psaume, après cette introduction du premier verset, commence par la résurrection et la louange. C'est fantastique. Voyez-vous, on n'a pas là une chronologie de l'histoire de Jésus qui a parlé aux disciples, il est mort à la croix, il est ressuscité. Là, on parle tout de suite de la résurrection. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'est pour montrer que dans ce psaume, Jésus veut montrer combien il est reconnaissant à Dieu de l'avoir ressuscité, de lui avoir donné une vie pour que nous puissions avoir la vie en tant qu'être humain. Nous sommes rachetés, c'est la rédemption par le sang de Jésus. La rédemption, la résurrection et la louange. Et là, nous pensons à Jésus victorieux. Amen. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur de la mort. Et après l'abîme de la mort, qu'il évoque dans les expressions du fond de la boue, du fond de la fosse de destruction, il a mis mes pieds sur le roc. » Il rappelle aussi l'histoire de Jonas. Hein, vous rappelez l'histoire de Jonas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Il a été révélé par qui? C'est possible, ça? Il paraît que non. Voilà, il a été avalé par un gros poisson et sa vie était en danger, bien sûr, mais Dieu l'a comme ressuscité, hein, ou quand ce poisson l'a rejeté sur la plage, qui était dans la bonne direction, parce que lui, il est parti en Espagne et Dieu voulait qu'il aille à l'Orient. Donc le poisson a fait le boulot de Dieu. Hein. Si Jonas ne l'a pas fait, le poisson l'a fait. Vous voyez, comme quoi, tout est sous le contrôle de Dieu. Hein. Et là, on a ce renvoi à l'histoire de Jonas, qui aussi a trouvé la stabilité de sa vie à nouveau avec le Seigneur, grâce au Seigneur, qui demeure à toujours, qui s'appuie sur le roc. Et nous sommes nous-mêmes au fond d'un puits, souvent, parfois dans un bourbier, dans certains cas, et nous pouvons penser à ce Seigneur victorieux. Amen. Pensez toujours, quand vous êtes dans une difficulté, à Jésus qui est vainqueur, qui est victorieux, qui a la victoire. Amen. Et Jonas, toute l'histoire de Jonas montre qu'au fond, quand il était dans le ventre du poisson, il a pensé. Il se voyait rentrer au Shéol, en enfer. Et là, il a crié au Seigneur. Et le Seigneur est intervenu. Amen. Il y a toujours, toujours, toujours dans notre vie, eh bien, la capacité de nous en sortir quand nous crions au Seigneur. Amen. Verset 3. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et ils se confiaient en l'Éternel. Est-ce que beaucoup ont vu la résurrection de Jésus? Je vous pose la question. Non? Pardon? Pas beaucoup? Ah, alors ici on me dit pas beaucoup. Combien? Combien? J'entends pas. 500. Il faut que tu leur lises la Bible. On te donnera les références, hein, je ne les ai pas en tête. 500 à la fois l'ont vu. Hein. Effectivement, tu as raison, il y a Marie, il y a les apôtres et tout ça, c'est vrai. Mais il y a 500 qui l'ont vu. Amen. Donc beaucoup, vous voyez, le psaume ne se trompe pas, c'est un psaume messianique qui annonce ce qui va se passer. Beaucoup l'ont vu. Hein. Des témoins oculaires de la résurrection de Jésus, il y en a eu beaucoup. Bien sûr, c'est le cas de Jean, l'autre disciple qui entre dans le tombeau vide, dans Jean 20, ou de Thomas, qui bien sûr a vu la marque de ses clous parce qu'il ne croyait pas. Mais il y en a eu 500 qui ont vu sa résurrection. Amen. Tu as la référence ? Bon, voilà trouvé. Verset suivant. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Voyez-vous, nous entrevoyons là la confiance de Christ, de Jésus comme homme. Il ne s'est pas tourné vers les orgueilleux. Lui, il était humble et doux de cœur. Le Seigneur n'est jamais avec les orgueilleux. Il a dû se détacher, il a fait dès le départ de son ministère, des hommes religieux, des chefs. Bien que tous les chefs ne soient pas mauvais, hein. Nicodème, entre autres, hein, qui était un chef de pharisiens, hein, c'était quelqu'un qui recherchait Dieu. C'est vrai qu'il est venu en pleine nuit pour pas trop être vu, parce que voilà... Et il avait quand même sa représentativité qui était en jeu, mais on voit après qu'il a défendu la cause de Jésus, parce qu'il a reconnu Jésus comme Messie. Mais Jésus est toujours venu comme un être doux et humble de cœur. Il n'était pas dans l'orgueil, malgré le fait qu'il était Dieu, eh bien il s'est abaissé, et on sait qu'il s'est abaissé jusqu'à la croix. Verset suivant. Tu as multiplié... Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. C'est Jésus, hein, qui parle. c'est Jésus. Voyez-vous, Jésus parle de Dieu dans ce langage de merveille, de choses extraordinaires. Combien plus forte raison, nous aussi, nous devons voir que nous sommes au bénéfice de ces merveilles. Et c'est pour ça qu'on devrait tout le temps parler des merveilles de Dieu. Amen. À ton voisin, à ton voisine, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Et même si nous sommes dans la difficulté, quand on parle des merveilles, on voit Dieu qui agit. Ce matin, Tom a donné l'exemple de la libéralité. Quand on donne, Dieu agit. Pourquoi ? Parce qu'il voit notre cœur. Il voit notre action qui est fondée sur la foi. Et Dieu agit, même quand on a des difficultés financières, Dieu agit et il a dit qu'ils n'ont manqué de rien. Les œuvres et ses pensées sont merveilleuses. Amen. Dis-le à ton voisin. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Ses pensées sont merveilleuses. Et l'apôtre Paul s'écrira dans Romains chapitre 11, verset 38, à l'exemple du Christ, « Ô profondeur de la richesse, profondeur de la sagesse, profondeur de la science de Dieu. » Voyez-vous, ça, c'est vraiment à la gloire de Dieu. Paul a reconnu ces profondeurs de Dieu. Jean, dans chapitre 21, verset 25, lui aussi, dira « Si on les écrivait en détail, donc tout ce que Jésus a fait, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il est mort à 99 ans, Jean. C'est l'apôtre qui est mort le plus tardif. Et bien lui, il a dit, si je devais écrire tout ce que Jésus a fait pendant les 3 ans de ministère, hein, vous vous rendez compte ? Si on devait écrire sur nous tout ce qui se passe pendant 3 ans, voyez-vous, il dit, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on devrait écrire. Vous voyez, c'est vraiment la gloire de Dieu. Jean s'exclame de cette manière comme le Messie de la gloire de Dieu. Jésus dira aussi dans Jean chapitre 5, verset 20, le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'admiration. Partageons l'admiration. Je crois qu'un chrétien ne devrait jamais perdre l'admiration de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Si on le perd, il faut crier à Dieu. Il faut dire, Seigneur, donne-moi cette admiration. Parce que Dieu est admirable. Amen. Je crois que un chrétien triste est un, redisons-le, je ne l'ai pas dit, hein. Un chrétien triste est un, eh oui, un triste chrétien. Eh oui, parce que Dieu est admirable. Dieu fait des choses admirables. Regardez en ce moment, en plein été, le ciel étoilé, on peut le voir aussi en hiver, hein, mais en été c'est plus agréable. Voilà, on peut se coucher par terre et regarder le ciel. Tout est admirable. Amen. Verset suivant. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. C'est un verset un peu particulier. Je vais en parler pourquoi. Ce verset messianique. Parce que Jésus était le plaisir de Dieu sur la terre. Voyez-vous, Dieu voudrait que nous soyons son plaisir. Dans Ésaïe 62, on l'a. Il y a une prophétie qui dit, nous sommes appelés le plaisir de Dieu. Dieu veut mettre son plaisir en nous. Est-ce que vous avez plaisir à jouer avec vos enfants, par exemple ? Non ? C'est une corvée ? Jouer avec les enfants, c'est un plaisir. Mais Dieu aime jouer avec nous. Il veut jouer avec nous. C'est pour ça que le Dieu, Père Fouettard, tout ça, voilà, c'est vraiment une invention humaine. C'est pas la réalité. Dieu nous dit, il veut mettre son plaisir à partager avec nous, à parler avec nous. Voyez, le soir, parler simplement avec le Seigneur. et vous verrez le plaisir qu'il a. Vous sentirez son cœur battre pour chacun, pour vous, parce que nous sommes son plaisir. Et Jésus était le plaisir, parce que Dieu voyait en Jésus l'homme parfait, celui qui obéit, non pas pour obéir, mais parce qu'il est pleinement heureux dans sa mission, dans la mission qu'il a reçue de son Père. Il y a quatre formes de sacrifice dans le Lévitique. Et ces quatre formes sont exprimées ici. Le sacrifice, l'offrande, l'holocauste et la victime expiatoire. Ces quatre formes dans le Lévitique sont exprimées ici. Et il y a une nouvelle forme qui n'avait pas été demandée par Dieu. C'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus. Elle n'était pas exprimée. Parce que c'est un sacrifice humain. Le sacrifice humain, Dieu ne le demande pas. Les satanistes le demandent. Hein. Satan le demande. Pour donner ses services, il demande des sacrifices, en général les bébés. Hein. C'est pour ça que voilà, on est contre l'avortement aussi. Hein. C'est quelque chose d'horrible. Parce qu'il demande une contrepartie. Dieu ne demande pas de contrepartie. Dieu donne avec grâce. Est-ce que Dieu te demande une contrepartie? Non, il t'a tout donné par grâce. Par contre, il y en a un qui devait mourir. C'est le fameux Aslan dans Narnia, hein, où le génie de C.S. Lewis a pu mettre ça à portée de tous. Hein. C'est Jésus. Mais il n'a pas été obligé de le faire. Il l'a fait par amour. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est un sacrifice volontaire, qui n'avait pas été demandé par Dieu. Et Jésus l'a décidé pour chacun de nous par amour, parce que c'était le seul moyen de nous racheter définitivement. Tous les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament, qui ont été préconisés, il fallait les refaire sans arrêt. Et c'est comme ça qu'on rentrait dans la religion juive, où il fallait tout le temps faire des sacrifices. Pour n'importe quoi, il y avait des prescriptions d'offrandes, des prescriptions de sacrifices, des prescriptions d'holocauste. Hein. Rappelez-vous, quand Salomon, David, tout ça est rentré, ils ont fait des holocaustes. Voilà, quand c'était l'arche de l'Alliance, c'était vraiment très important. Mais Jésus, il a accompli un sacrifice qui n'avait pas été prescrit par la loi, mais qu'il a fait par amour. Et là, il y a quelque chose de particulier. Il dit, tu m'as ouvert les oreilles. Ben, je n'ai pas compris. Je dis, c'est quoi ça? Dans tout psaume, ça ne m'a pas dérangé, tout le reste. Là, je n'ai pas compris. Il y en a qui ont compris. Pourquoi il dit, tu m'as ouvert les oreilles? Qu'est-ce que ça vient faire là? Non? Alors, j'ai étudié un peu la question. Et en fait, ça renvoie à la façon de traduire la Bible. Alors, je parle sous contrôle de ma femme, parce que je n'ai pas fait la Sorbonne. Hein. Mais il y a deux façons de traduire une langue. Chaque langue a son génie, sa manière de dire les choses. Et c'est ce qui rend difficile l'acte de traduction. Il y a deux grandes catégories de versions de la Bible. Est-ce que vous saviez ça? Il y a les Bibles qui sont traduites littéralement. Vous connaissez des Bibles très très littérales, mot à mot. C'est traduit mot à mot. Et la Bible Darby. Darby a souhaité traduire tout mot à mot. Alors, pardon? Chouraki aussi, voilà. Donc ça, c'est une forme de traduction formelle ou littérale. C'est-à-dire on veut rester le plus proche de l'original. On cherche à laisser voir dans la langue réceptrice la manière dont la chose est dite dans l'original. En d'autres termes, on reste le plus proche du texte source. Il y a une autre façon de traduire. C'est ce qu'on appelle la traduction de l'équivalence dynamique ou fonctionnelle. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une traduction dynamique ou fonctionnelle. Ça veut dire qu'on reste le plus près du sens du texte. Vous voyez ? D'un côté, on traduit littéralement, mot à mot, et de l'autre côté, on veut rester dans le sens. Alors les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Dans le cas de la traduction dynamique ou fonctionnelle, on cherche à rendre le sens original, ce qu'on voulait dire en direction du sens, en s'affranchissant de correspondances formelles du langage, en essayant de produire les mêmes impressions. Donc ça traduit plus le sentiment qu'on reçoit quand on dit quelque chose, l'impression et la réaction que le texte original voulait donner au lecteur. En d'autres termes, on dissocie le contenu de la forme de la langue d'origine et on le transpose dans la forme de la langue cible. Je donne un exemple très simple. Quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qu'on dit en français ? Il pleut des... En Angleterre, il tombe des chats et des chiens. Ouais. Si par exemple un prédicateur anglais ici voilà, disait voilà, il tombe des chats et des chiens, et puis Michel est traduit, il tombe des chats et des chiens. Vous regarderiez, dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ben, il traduirait, il tombe des cornes. Hello ? Vous voyez, pardon ? Yalbard, tu as un autre exemple à donner de traduction dynamique, non ? Voilà, vous voyez, donc les deux ont le sens. D'un côté, vous dites, il tombe des chiens, des chats et des chiens. Bon, vous avez traduit littéralement. Très bien, bon traducteur, non ? Personne ne comprend rien dans la salle. C'est pour ça que vous voyez des traducteurs qui font rigoler la salle et d'autres qui n'arrivent pas à les faire rigoler. Et c'est pour ça aussi qu'avec Michel, on est d'accord là-dessus, c'est qu'on ne veut jamais donner à quelqu'un une traduction, par exemple en français, qui vienne de Chine, d'Inde, des États-Unis, n'importe où, qui ne connaît pas la langue maternelle, le français, la langue réceptacle. Parce que la langue réceptacle, celui qui a appris le français tout petit, il sent les choses, vous voyez, c'est au niveau du sentir, du feeling, du sentiment. C'est-à-dire qu'il va traduire ce que tout le monde va penser, et en plus quand c'est de l'humour, bah, ça fait rigoler tout le monde, parce que en fait, celui qui prêche, il voulait faire rigoler les gens. Donc il utilise un terme rigolo dans sa langue, et si c'est traduit simplement littéralement, tout le monde se regarde, bah, personne ne rigole, quoi. Bah, bon, ça, c'est au niveau de l'humour, mais au niveau de la compréhension, c'est pareil. Quand vous ressentez quelque chose qui est très fort sur le plan émotionnel, bah, il faut le retraduire sur le plan émotionnel, donc il ne faut pas faire une traduction littérale. Hello ? Vous avez compris ? Voilà. Et il y a des Bibles donc qui sont traduites en traduction dynamique. Et c'est lesquelles ? Vous en connaissez des Bibles ? Vous en avez peut-être ? Pardon ? Français courant, par exemple. Pardon ? Français courant, il y en a d'autres, etc. Voilà. Donc les traducteurs se sont mis dans cette idée qu'ils vont traduire le sens, ils vont donner le sens. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs Bibles, vous voyez ? Une traduction littérale, traduction dynamique, etc. Donc vous avez le sens du texte. Et là, c'est quoi le sens ? Nous sommes là dans une traduction dynamique, tu m'as ouvert les oreilles, parce que, mais la traduction, la Septante, c'est la traduction, enfin c'est la Bible en grec, qui a été écrite en grec je ne sais pas en quel siècle, deuxième siècle, elle a été écrite en grec, et en grec, il a dit, tu m'as formé un corps. Ça n'a rien à voir avec « tu m'as ouvert les oreilles ». D'un côté, « tu m'as ouvert les oreilles », traduction littérale, et traduction dynamique, c'est « tu m'as formé un corps ». Je pense que la notion d'oreille, c'est le fait que eh bien, le Seigneur eh bien, est auprès des humbles qui écoutent. L'oreille, c'est la notion d'écoute. Écoute Israël. Les Juifs sont beaucoup dans l'écoute. Nous, on est beaucoup dans le faire, on est dans l'action et tout ça. Écoute. Hein. L'écoute, c'est la particularité du disciple qui est auprès de son maître. Celui qui veut agir, et est dans le faire. Mais le Seigneur, il veut l'écoute. Marie était à l'écoute de Jésus. Marthe, elle était dans le faire. Et Jésus, il a loué Marie en disant, et prends la bonne part. Toi, Marthe, vous avez tout le temps, après ma mort, de faire tout un tas de choses, mais prenez le temps d'écouter. Voyez. Et très souvent, on a du mal à écouter. Et le Seigneur qui dit, tu m'as donné les oreilles, ça veut dire qu'il écoute son Dieu avant de faire. Et quand la traduction de la Septante dit « Tu m'as donné, tu m'as formé un corps », eh bien, il veut montrer que là, Jésus était parfaitement dans l'écoute, l'obéissance, la soumission au Père. En tant qu'être humain, c'est ce que nous devons aussi être. Nous devons être dans cette écoute. 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 Il y a des gens qui ne peuvent pas écouter. Ils sont tout le temps dans... Voilà. Ils ont tout le temps une réplique. Ils ont tout le temps un mot. Vous connaissez des gens comme ça? Tout le temps. Voilà. Donc du coup, ils ne peuvent pas écouter. Écouter, c'est vraiment dire « Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. » Nous devons toujours être dans cette humilité du serviteur qui écoutons. Écoutons davantage et les choses peuvent changer dans nos vies. Le corps de Jésus était parfait, enfin son corps d'homme parfait est présenté comme un sacrifice et donc il a donné ce sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme offrande volontaire pour nos péchés. Verset suivant. « Alors je dis, voici je viens. » Voyez-vous, ça c'est la conclusion. Il a vu que tous les sacrifices n'étaient pas capables de nous sauver éternellement. Il n'y avait qu'un seul sacrifice, c'était sa vie. Et donc, il a compris que le Père voulait qu'il donne sa vie. Et lui, il a dit, voici, je viens. Joseph, par exemple, dans la Bible, dit, me voici, quand son père veut l'envoyer vers ses frères, Genèse 37. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Quand Dieu lui demande « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ézéchiel 6, 8. David, il est dit qu'il se leva de bon matin, prit sa charge et partit, quand Isaïe, son père, lui demanda d'aller voir ses frères. Joseph et David, sous différents traits de leur caractère, par les expériences de leur vie, par l'exemple du rejet de leurs frères, annoncent par avance celui qui, encore mieux qu'eux, dit « Voici, je viens ». Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, je suis toujours prêt à dire voici, je me viens. Oui. C'est une question à se poser. Très souvent, on reporte. Hein. Mais faites attention dans le report. Quand Dieu vous demande quelque chose et vous le reportez, souvent le diable s'en empare. Le diable, il est dans le report. Il cherche à ce que nous reportions des choses. Ne cherchez pas trop à reporter. Quand Dieu vous parle, faites-le. Ça, c'est la marque de l'obéissance. Regardez Abraham, quand Dieu lui a dit « Je te demande ton fils », qu'est-ce qu'il a fait Abraham ? De bon matin, de bon matin. Hein ? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. De bon matin. Moi je ne me lève pas tôt, hein. Enfin, surtout pas maintenant. De bon matin, il se leva et est parti. Il n'a pas discuté avec Dieu. Voyez ? Parce qu'il savait que Dieu avait un plan qui le dépassait. Et l'obéissance a fait qu'il est rentré dans un plan extraordinaire et est devenu le père de la foi. Amen. Alors apprenez à dire, Seigneur, je viens. Hello ? Jésus, il incarne ce Seigneur, je viens. Le verset suivant, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir ». Et ta loi est au fond de mon cœur. Quand Jésus dit à ses disciples étonnés devant le puits de Sichar, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est Jean 4, 34. C'est un peu comme si le psaume 40 était pour lui-même. Ce même verset fait référence à un autre rouleau, un autre livre, celui de la loi. C'est une chaîne qui commence par le Pentateuque, on l'a vu, qui se poursuit par le psaume et qui se termine dans les évangiles et dans l'épître aux Hébreux. Jésus dira dans Jean, chapitre 5, verset 46, il dit « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il est écrit à mon sujet. » Voyez-vous, quand les disciples d'Emmaüs, le lendemain de la résurrection, ils se sont lamentés en disant « Ouais, c'était une belle histoire. Jésus était avec nous. C'est terminé. » Jésus, tout au long du chemin, il leur a parlé des Écritures qui parlaient de lui. Et en chemin, leur cœur s'est réchauffé. En chemin, ils disent, mais c'est incroyable, notre cœur s'est réchauffé. Hein? Voilà, parce que quand Jésus nous parle de son amour et de son histoire, eh bien notre cœur se réchauffe. Que notre cœur ne se refroidisse pas à l'écoute de la parole, parce qu'elle est merveilleuse et elle nous parle de celui qui est venu pour nous aimer et nous sauver. Le verset suivant, il est dit, j'annonce ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas mon cœur, dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Jésus est le témoin fidèle. Sa vie se caractérise par la perfection dans son ministère. Au cours de son ministère, il ne se lassait pas de dire, dans Marc par exemple, verset 10, selon sa coutume, il se mit à enseigner la foule. Dans les tout derniers jours avant la croix, il dit dans Luc, tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Dans 1 Timothée 6, 13, Jésus fait une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus n'a pas hésité non plus devant le souverain sacrificateur, alors qu'il était destiné au châtiment et au déchaînement de la violence de ses paroles. Il a dit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite, la puissance de Dieu, en venant sur les nuées du ciel. Jésus unifie admirablement dans une seule phrase les deux textes messianiques, psaume 110, assis à la droite de la puissance de Dieu, et Daniel 7, 13, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Voyez-vous, la situation est retournée, Jésus devient le juge et l'assistance l'accusé. Ça, c'est à la fin des temps. Les choses se retournent. Comme si Jésus donnait, à la dernière heure de son ministère, la clé de l'expression qu'il aimait tant utiliser pour se désigner lui-même le Fils de l'homme, qu'on retrouve 79 fois dans sa bouche. Verset suivant. « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Voyez-vous, ce psaume 40, qui introduit Christ comme un sacrifice, le présente comme celui qui a porté nos péchés, qui les a pris sur lui. Il est semblable au bouc, le bouc Azaël, le bouc émissaire, qu'on appelle le bouc émissaire. Dans chaque année, quand le souverain sacrificateur, il imposait les mains sur un bouc, et ce bouc, on l'envoyait dehors, il emmenait tous les péchés à l'extérieur. Jésus a pris la place de ce bouc émissaire, où Dieu a mis tous les péchés du monde sur ce bouc émissaire, et qui était chassé. Jésus a accepté. Est-ce que nous accepterions ça? Jésus a accepté ce rôle du bouc Azazel, du bouc émissaire. Ce dernier, on y confessait toutes les iniquités, toutes les transgressions du peuple. Et le bouc partait au désert, c'est dans Lévitique 16, versets 20 à 23. Jésus a connu cet acte où Dieu a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est là qu'il a accompli ce qui était prévu par la liturgie d'Israël pour enlever les péchés du peuple. Verset suivant. Veuille me délivrer, ô Éternel. C'est Jésus qui parle. Veuille me délivrer, ô Éternel. Voyez-vous, il a besoin de l'aide de son Père. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent « Ah, ah !» qui se moquent. Voyez-vous, le Seigneur est passé par la souffrance, par la moquerie, par le ridicule, par le fait d'être différent. Vous savez qu'un des éléments de la culture que nous apprenons, c'est parce qu'on ne veut pas être différent. Hein, et c'est normal, les enfants qui sont différents, on les persécute. Donc très vite, on comprend qu'il faut faire comme les autres. Hein, voilà. Et c'est ça qui forme notre culture, en gros, nos habitudes. Quoi. Mais vous savez, la culture n'est pas parfaite. Hein. Il faut se repentir. On a vu récemment la culture du potomitan. Eh oui, c'est pas quelque chose à glorifier. Hein. C'est quelque chose qui est contre le projet de Dieu. Et beaucoup de cultures viennent comme ça et on pense que c'est bien, forcément, parce qu'on ne veut pas être différent. Jésus a accepté d'être différent. Alors, il a accepté d'être différent parce qu'il nous a aimés. Dans Psaume 69, verset 20, Jésus dit « L'opprobre me brise le cœur ». Le cœur de Jésus était brisé à cause de l'opprobre, à cause de la honte qui était placée, du péché qui était placé sur lui. Il a connu ça. Vous savez, quelqu'un d'endurci peut se moquer de la vie des autres, mais le Seigneur est sensible à la violence des mots et des regards. Jésus a été sensible à cette violence dont il a été l'objet. Et il nous comprend. Il comprend si nous, on a subi des violences. Il nous comprend si nous, on a subi la moquerie. Il nous comprend si nous, on a subi le regard différent des autres. Parce que Jésus l'a connu. Et c'est pour ça qu'il peut venir en notre aide. Il nous comprend. Il comprend notre ressenti. Et des attaques de cette nature, il en a eu aussi. Voyez-vous, il semble que ce psaume se termine par la croix, alors qu'il avait commencé par la résurrection. C'est vrai aussi pourquoi dans un culte comme celui-ci, ou dans un culte personnel, on n'a pas besoin de suivre une liturgie, on commence par la croix, on termine par la résurrection. On peut très bien commencer par la résurrection et terminer par la croix. Voyez-vous, c'est pas, ouais, c'est pour ça que la liturgie doit être souple. Hein, et là, ce psaume, il commence par la résurrection et termine par la croix. N'hésitons pas à commencer nos cultes par la résurrection, par la joie. On termine par ce culte, par ce psaume avec le verset suivant : que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et qu'ils se réjouissent en toi. Que tous ceux qui aiment ton salut disent sans cesse : exalté soit l'Éternel. On le dit tous ensemble : exalté soit l'Éternel. Au cœur de la souffrance, au cœur de la croix, le Messie, Jésus, entrevoit les fruits de son œuvre. Des hommes et des femmes que nous sommes rechercheront Dieu et se réjouiront en lui et seront l'objet d'un si grand salut. Ce seront des adorateurs, les adorateurs que nous sommes. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est écrit ce magnifique passage. Jésus, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Vous voyez, c'est un peu le résumé. Ce psaume est un peu le résumé de ces versets. La honte, verset 15, la joie, verset 16, et la croix, verset 17. Jésus a connu la honte. Il a dû mourir comme le plus vil des criminels de son époque par la croix. Mais il a accepté d'endurer cela parce qu'il voyait la joie que nous aurions quand nous serions sauvés. C'est pas merveilleux ça ? C'est pas de l'amour ça ? C'est pas de l'amour ça ? Jésus a enduré tout cela alors qu'il était fils de Dieu. Aussi fils de l'homme, et en tant que fils de l'homme, il a accepté de vivre cette honte, ce mépris, cette souffrance, parce qu'il voyait la joie, la joie. C.S. Lewis, qui était quelqu'un de très très brainy, comme on dit, je ne sais pas comment on a traduit ça, brillant, vous voyez. Nous, les Français, on veut être très brillants hein, dans notre intellect. Il était brillant. Et on dit, oui, on ne peut pas découvrir Dieu quand on est dans la raison. Non. Grâce à la raison, à la logique, C.S. Lewis a dit, c'est pas possible. Dieu existe. Et donc, il ne faut pas nous raconter de salade. c'est pas une malédiction. Hein. Être intelligent, on peut l'utiliser pour le bien. Et c'est ce que dit, ça a rencontré Dieu grâce à la logique toute simple de la science. Et c'est pour cela que nous pouvons tous parvenir à la connaissance de Jésus lorsque nous nous laissons toucher par cet amour qu'il a manifesté à la croix. Et on termine par le dernier verset. Moi, donc Jésus, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Sur la croix, Jésus a crié au Père. Il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était rempli par le péché de toute l'humanité et Dieu l'a abandonné. Mais il a crié à Dieu, dit, Dieu, mon Père, ne tarde pas, viens à mon secours. Et 3 jours après, il est sorti du tombeau. Jésus était le pauvre par excellence. On venait le dépouiller de tout. Et même sa tunique, qui était une tunique tissée d'une seule pièce, on se l'est partagée. Tout était dépouillé. Donc aucun pauvre de la terre ne peut dire que Jésus ne le comprend pas. Jésus était le plus pauvre de toute l'humanité. Mais la souffrance est là, le temps est long, et Jésus a dit, mon Dieu ne tarde pas. Il savait qu'il y avait une promesse pour lui. Et vous aussi, vous savez qu'il y a des promesses pour vous. Donc si vous êtes dans la difficulté, dites simplement, Seigneur ne tarde pas, mais ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Encouragez-vous mutuellement, hein, dans la difficulté, dans l'épreuve, parce que Dieu est là. Dieu est là, amen. Et il viendra au bon moment. 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau et il est vainqueur. Et il est ton sauveur, ton Seigneur, mon Seigneur. Amen. Voyez-vous, ce psaume 40 montre magnifiquement que Jésus est venu comme Messie, souffrant, mais vainqueur. Amen. Et maintenant, ce qui nous attend, ce n'est plus un Jésus souffrant, c'est un Jésus vainqueur. Est-ce que tu as un Jésus vainqueur? Pour ce qui est de la croix, pour ce qui est de la souffrance, nous avons la repentance. Et c'est pour ça, dans le torrent qui purifie, tout est basé sur la repentance. Sans repentance, il ne peut pas y avoir de pardon. Et la repentance, ce n'est pas nous qui devons expier nos péchés, Jésus l'a fait. Il suffit simplement de venir à lui, de venir à celui qu'on a offensé et lui demander pardon. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité. Mais c'est quoi? C'est parce que la joie nous attend. La joie de la réconciliation, la joie de retrouver un frère, de retrouver une sœur, de retrouver un ami, de retrouver des parents, même s'ils étaient... Voyez-vous, ce matin, j'étais très, très touché par le témoignage de Tom qui a honoré ses parents. Honorer veut dire donner du poids. Il n'a pas dit des choses, ils n'ont pas tout fait bien, mais ce qui est bien fait, on le signale. Et c'est ça qui donne la joie, honorer. Vous voyez, et il faut qu'on apprenne, avec la parole de Dieu, eh bien, à faire ce qui nous est demandé et à rentrer dans l'humilité. Et la Sainte Cène, maintenant qu'on va prendre, eh bien, nous parle de cette humilité. Jésus s'est humilié. Et la Cène nous rappelle que nous avons besoin de nous humilier. De dire, Seigneur, oui, tu as fait tout cela pour moi. Tout ce que tu me demandes, c'est de rentrer dans l'humilité, de demander pardon. Demander pardon. Alors si ce matin tu as blessé quelqu'un ou quelqu'un t'a blessé, la Bible dit avant de prendre la table, eh bien même si quelqu'un t'en veut, toi t'as rien fait. Si quelqu'un t'en veut, ouais, te regarde un peu de travers, tout ça, voilà. Bah va le voir. Si je t'aime, j'ai rien. Voyez-vous, c'est ça la joie. Pourquoi on n'a pas la joie? Parce que voilà, il y a toujours quelque chose dans notre cœur là qui va pas, tout ça, voilà, une petite vague à l'âme. Non, enlevez tout ça. Soyez dans la joie. Amen. Donc, allez vous voir, réconciliez-vous, demandez pardon. En fait, tout ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu ce matin dans le psaume 40, c'est le cœur de Jésus. Jésus s'est humilié, malgré tout ce qui est arrivé, pour nous donner un exemple. Et Jésus est notre exemple. Amen. J'invite les personnes désignées pour le service.